20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. En 1976, c'est l'année de la sécheresse. Une sécheresse qui révéla aux Français d'étranges enclos et d'étonnantes villas romaines via l'archéologie aérienne. 1976 est surtout pour les préhistoriens l'année du fameux congrès de l'USPP tenu à Nice et qui projeta sur la scène internationale la recherche préhistorique et protohistorique française quelque peu endormie. Après Mexico, Burgos, Lisbonne ou Mayence, la France, depuis 42 ans, n'avait jamais reçu ce grand événement, cette sorte d'exposition universelle des archéologues, grand-messe où tout un chacun se croise, se presse. 42 ans plus tard, c'est chose faite, il vient de se dérouler à Paris, dans un bazar tout sorbonnard. Pour l'occasion, deux gros volumes de synthèse ont été édités, dont un ouvrage « La proto-histoire de la France » paru aux éditions Hermann et sous la direction de Jean Guilaine et de Dominique Garcia. En duplex de Toulouse, Jean Guilaine, bonsoir.
Bonsoir.
Rappelons que vous êtes professeur au Collège de France, membre de l'Institut, et bien entendu, étiez présent à ce congrès des sciences préhistoriques et proto-historiques. Que s'est-il passé depuis 40 ans? Quelles furent les découvertes, les avancées? Et que manque-t-il aujourd'hui à cette discipline? Tel sera notre sujet. Mais avant toute chose, ce livre, vous le dédiez, pourrais-je dire, à la mémoire de votre camarade de collège, Christian Goudineau, qui vient de disparaître.
Oui, alors Christian Goudineau, nous avons eu tous les deux un très long compagnonnage qui a duré une bonne trentaine d'années. J'ai rencontré Christian Goudineau, en fait, en 1978, au Conseil supérieur de la recherche archéologique, où nous venions tous les deux d'être nommés. Alors, nous avons travaillé ensemble au CSRA. Moi, il se trouve que en 1984, à la suite de la maladie de son président, qui était, ou vice-président plus exactement, Roland Martin, j'avais pris les rênes de l'Assemblée. Et puis, un an après, en 1985, c'est lui qui a été nommé par le ministre président, vice-président plus exactement, puisque le président, c'est le ministre, vice-président du Conseil supérieur pendant 5 années. Et comme il connaissait moins les affaires de la préhistoire, il m'a dit, écoute, tu restes à mes côtés. Et donc, nous avons fait marcher le Conseil supérieur pendant 5 années. Mais aussi, à partir de 1985, nous avons été tous les deux directeurs, respectivement, lui de Gallia et moi de Gallia préhistoire. De sorte que nous avions un pied, en quelque sorte, rue d'Aboukir au ministère de la Culture, un autre pied, rue Calvin, à Gallia. Nous avions un autre point de chute, si vous me permettez l'expression, rue de l'Arsenal, aux éditions Erance, parce que nous étions liés d'amitié avec son directeur, Frédéric Lonchot. Et puis, Christian Goudineau avait été élu au Collège de France en 1983 ou 4, si ma mémoire est fidèle, et une dizaine d'années après, je l'ai rejoint au collège, de sorte que nous avons enseigné, nous deux, la proto-histoire. Moi-même, la proto-histoire ancienne du néolithique et de l'âge du bronze, et lui, la proto-histoire de l'âge du fer, en quelque sorte, et notamment de la période gauloise, période qu'il a, évidemment, remise au goût du jour.
Je reprendrai le livre 7 de César. Christian Goudineau était celui qui avait tenu le premier rang de la Gaule, dont l'exploit fut, sous l'égide du Collège de France, de fédérer une fois encore la proto-histoire qui était très régionalisée.
Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure les deux gros ouvrages, les trois gros ouvrages, la préhistoire française, paru en 1976 à l'occasion du congrès de Nice, et si l'on essaie de comparer l'ouvrage consacré à la proto-histoire en 1976 et l'ouvrage qu'avec Dominique Garcia nous venons de diriger et de publier chez Hermann, au fond c'est la nuit et le jour. Parce que en 1976, si vous voulez, nous sortions à ce moment-là toute une série de bilans régionaux qui avaient fait le point sur les diverses données régionales de l'archéologie. Et le livre de 1976, c'est une sorte de panorama, en quelque sorte, culturaliste, si vous voulez. Autrement dit, région après région, nous avons fait le bilan sur ce que l'on savait du néolithique, de l'âge du bronze, de l'âge du fer. C'était la première fois dans notre littérature proto-historique où le paléo-environnement apparaissait. Alors, l'ouvrage de 2018 est totalement différent. C'est un ouvrage, en quelque sorte, où le temps a passé, la documentation s'est multipliée, je dirais même démultipliée, l'archéologie préventive a livré un stock, une abondance de connaissances extraordinaires, la caractérisation des matériaux a levé bien des hypothèques, la chronologie absolue s'est affinée, l'archéologie funéraire est sortie en quelque sorte de l'étude des restes humains pour devenir une sorte de science des comportements culturels. On a aujourd'hui la génétique qui revisite avec une précision, n'est-ce pas, jusqu'ici qui était impensable, les mouvements de population. Donc, on peut ouvrir en quelque sorte des problématiques de haut niveau. Au fond, on a abandonné les objets, on a essayé de brosser toute une série de panoramas concernant la société.
Jean Guilaine, nous en avions récemment parlé. La proto-histoire s'étire du néolithique, le sixième millénaire avant notre ère, jusqu'à l'âge du fer. C'est ce que vous aviez dénommé la France d'avant la France. Toutefois, rappelons-le tout de suite, nos frontières n'ont absolument aucun sens tant à l'époque qu'aujourd'hui pour les chercheurs.
Mais bien entendu, et je mets en, avec Dominique Garcia, nous mettons en garde les lecteurs d'emblée. Il n'est pas question, à travers cet ouvrage, de définir une sorte de pré-France ou de proto-France, n'est-ce pas ? Nous l'affirmons avec force, tout au long de la proto-histoire, la France n'existe pas. Et il serait vain de vouloir dégager ici, tout au long des millénaires dont il est question dans l'ouvrage, une sorte, comment dirais-je, une sorte d'unité culturelle qui préfigurerait le futur pays, n'est-ce pas ? La France est une construction historique qui est liée à une succession d'événements et qui sont postérieurs, évidemment, au temps qui nous concerne. Et alors, ce territoire qui sera plus tard la France, qui se trouve à l'extrémité de l'Europe, il est très accessible à la fois par mer, en quelque sorte, par la façade atlantique et par la Méditerranée, mais également par les plaines du Nord, et également, au fond, par les montagnes, parce que ni les Alpes ni les Pyrénées n'ont été de véritables frontières. Elles sont parcourues largement dès le néolithique et probablement même auparavant.
C'est vers 5800 avant notre ère que des immigrés arrivent. On pourrait presque dire il était temps. Nous étions très en retard par rapport au reste du vieux monde.
Ah ben oui, la France est toujours en situation de décalage, si je puis dire, pour ces périodes-là, par rapport au Proche-Orient. C'est-à-dire que lorsque les néolithiques arrivent vers 5800 avant notre ère dans le midi de la France, le néolithique est installé depuis les 9e et 8e millénaires au Proche-Orient. Lorsque la métallurgie arrive en France, en gros, aux alentours de 4000, 3500 avant notre ère, et surtout dans le courant du 3e millénaire, elle s'est déjà manifestée un ou deux millénaires auparavant dans la zone balkanique. Lorsque les villes se manifesteront dans le courant du premier millénaire avant notre ère en Occident, eh bien la ville est déjà apparue autour de 3000 ans, 3500 ans en Orient. Donc ces manifestations en Occident sont toujours différées chronologiquement, bien entendu. Donc les premiers néolithiques arrivent vers 5800 avant notre ère. Ils arrivent d'abord dans le Midi. Vous savez, pendant longtemps, on a mis en parallèle, en quelque sorte, puisque la France a été néolithisée, c'est-à-dire a été conquise par les paysans selon deux axes, n'est-ce pas ? Un axe qui est un axe maritime et méridional par la Méditerranée et un axe par la voie du Danube et de ses affluents, n'est-ce pas ? Qui traverse l'Europe centrale. Et donc la France, en quelque sorte, est prise dans une sorte de tenaille où on voit deux formes de néolithique arriver, l'une par le sud, l'autre par le nord. Et pendant longtemps, on a dit, bon, les gens du Nord, ce sont les rubanais. On les appelle comme ça parce que leur céramique porte des décorations de motifs en forme de ruban. Et les gens du Sud, on les appelait les cardiaux, les gens du cardial, parce que la céramique est décorée à l'aide d'un coquillage qu'on appelle le cardium. Et on a souvent, alors, comparer ces deux fronts pionniers, mais aujourd'hui, on se rend compte que les choses ne sont pas du tout passées comme ça. En fait, avant le néolithique, la civilisation cardiale, il y a des gens qui arrivent, des pionniers, qui antécèdent en quelque sorte le cardial et qui s'installent, qui fondent des sortes de petits comptoirs, de petites fermes, et en réalité, dans le sud de la France. Autour de 5800 avant notre ère. Et les gens du cardial n'arriveront qu'après. C'est-à-dire que les gens du cardial ne sont pas des pionniers. Ce sont plutôt les héritiers de ces gens qui les ont précédés. À l'inverse, le flux qui vient par le Danube est un front pionnier, je dirais un front pionnier forestier. Au fond, il y a deux éléments qui interviennent. Un front pionnier forestier au nord, à partir de 5300-5200 avant notre ère, et au sud, toute une série de fondations, de petits sites qui apparaissent à partir de 5800 et qui se transformeront pour donner le cardial. Voilà en gros, si vous voulez, les deux éléments en tenaille qui vont permettre aux paysans de s'implanter en France. Et puis évidemment, la progression intérieure, autant au nord qu'au sud, fera que ces deux courants finiront par se mixer et s'interfluencer.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jean Guilaine, qu'en est-il des chasseurs-collecteurs qui précèdent les sociétés agropastorales? On pense souvent qu'ils ont été intégrés. De fait, il existerait un hiatus chronologique entre eux et donc ces premières vagues néolithiques? Cela doit poser un problème aux archéologues?
Oui, cela pose un problème aux archéologues. C'est vrai qu'on a souvent parlé de face à face entre les premiers agriculteurs et les derniers chasseurs-cueilleurs, en quelque sorte. Mais l'archéologie est parfois rétive, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans les stratigraphies, c'est-à-dire dans les gisements où nous avons les derniers niveaux qui indiquent, en quelque sorte, la présence des chasseurs-cueilleurs, et les premiers niveaux qui attestent de la présence des premiers paysans, des premiers cultivateurs, il y a un hiatus, souvent. Alors, que sont devenus ces chasseurs-cueilleurs? Nous ne le savons pas. Ils n'ont pas disparu, ça c'est certain, puisqu'on va retrouver chez les néolithiques certaines traditions, par exemple l'usage de faire des colliers avec des coquillages méditerranéens comme les colombelles. Ils n'ont pas disparu. Mais, si vous voulez, on est obligé de faire des hypothèses, d'émettre des théories, de faire des modèles en quelque sorte, de face à face, peut-être de confrontation même, nous ne savons pas, mais la réalité archéologique, elle, est toujours rétive. Vous voyez, je profite de ce cas de figure pour montrer comment, en archéologie, il y a d'abord les faits sur lesquels nous discutons, et puis ensuite, il y a les théories. Et souvent, il n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de faire marcher les premiers avec les secondes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ces chasseurs-cueilleurs, que sont-ils devenus? Ou bien ils ont été très probablement assimilés progressivement, autrement dit, ils se sont néolithisés au contact des premiers paysans, ou bien alors, il faut penser à une sorte d'extinction et d'élimination. Ce que nous voyons géographiquement, par exemple, en Méditerranée occidentale, c'est qu'au fur et à mesure où se manifestent les premières colonies, les premiers comptoirs, si vous me permettez ce terme, n'est-ce pas, néolithiques, on voit géographiquement, progressivement, les chasseurs-cueilleurs reculaient, n'est-ce pas? Autrement dit, remonter, passer en Espagne, ensuite remonter le long de l'Atlantique. Et évidemment, il y a progressivement une disparition des chasseurs-cueilleurs. Mais comment cette disparition s'est faite? Cela reste un problème qui est en débat.
Les géosciences de l'environnement, le climat est le grand nouvel acteur de la recherche sur la protohistoire, notamment ancienne, l'homme et le climat. On parle désormais de résilience sociétale ou communautaire dès le quatrième millénaire. Une pression sur les sols s'opérerait donc par là même sur les paysages, notamment dans le Midi.
Les climatologues se sont invités dans les débats sur la néolithisation en disant, est-ce que ces sociétés d'emblée étaient en possession de moyens qui leur permettaient de résister à des périodes de climat plus rigoureux, n'est-ce pas, à des périodes de déstabilisation, n'est-ce pas, puisque en gros, on peut dire qu'il y a des phases d'instabilité. Cette instabilité, elle peut être hydrologique, elle peut se traduire par des érosions, par des transferts de sédiments, des accumulations de sédiments qui ont été arrachés à d'autres secteurs de la nature, n'est-ce pas? Et puis à côté de ça, il y a des phases de stabilité en quelque sorte, des versants, des plaines alluviales. Alors, le problème, à la fois pour les climatologues, mais je dirais aussi pour les archéologues, c'est de différencier les événements qui n'ont qu'une valeur ponctuelle, les événements locaux, évidemment qui ont été surmontés par les groupes humains, n'est-ce pas? Et de phénomènes plus globaux, qui ont entraîné des contraintes, bien entendu. Par exemple, vous avez aujourd'hui des climatologues qui disent que, en définitive, le néolithique qui s'était d'abord installé au Proche-Orient a connu, vers 6200 avant notre ère, une espèce de coup d'aridité qui a obligé les gens à abandonner les sites et à aller vers des régions moins réfractaires, en quelque sorte. Et que la néolithisation de l'Europe a commencé autour de 6200 avant notre ère, en raison évidemment de ces péjorations ou de ces aridifications qui se manifestaient au Proche-Orient. C'est pas tout à fait juste, parce que on se rend compte que vers 6200 avant notre ère, déjà, des groupes avaient migré et s'étaient installés dans le sud-est de l'Europe. Mais c'est vrai qu'il y a à ce moment-là un problème. Et notamment en Occident, où il n'y a pas encore les néolithiques, puisqu'ils n'arriveront que vers 5800, on voit les chasseurs-cueilleurs qui sont déstabilisés et qui souvent disparaissent même, enfin disparaissent de notre vue, de nos visions d'archéologues, voyez, mais qui certainement modifient leur comportement. Voyez donc, le climat, ça n'est pas d'emblée l'optimum climatique là qui permet aux paysans de s'installer. C'est une série de variations permanentes avec des coups de froid, des coups érosifs, puis des périodes plus calmes, etc. Donc le climat est important, évidemment, pour essayer de cerner quelle est la part de la nature et quelle est la part de l'homme, c'est-à-dire de la culture, dans cette installation des populations néolithiques et dans tout leur déroulement chronologique.
Nouveau phénomène anthropique cette fois-ci, une des grandes perturbations serait le feu. Il y aurait presque un néolithique du feu.
Alors ça, c'est encore un autre problème. Voyez, je mets l'accent sur les problèmes que nous rencontrons. Rien n'est simple en archéologie. À partir du moment où la forêt post-glaciaire s'est régénérée, s'est mise en place après les grands froids du Vurmien, n'est-ce pas, il y a eu des incendies. Et ces incendies ont souvent été des incendies naturels. À partir du moment où l'homme paysan arrive à partir du néolithique, et où l'homme, on le sait, commence à bâtir, à construire son décor, en particulier en brûlant les forêts, parce qu'il a besoin évidemment pour ses bêtes de prairies, il a besoin d'espaces découverts pour cultiver, et donc il est intervenu sur la nature, il a brûlé la forêt. Pour les premiers temps du néolithique, on ne sait jamais, d'une manière très très sûre, si les incendies, n'est-ce pas, sont des incendies naturels ou des incendies anthropiques. Et je dirais ceci d'autant que les villageois ont pu profiter des espaces dégagés par des incendies naturels. Donc, vous voyez, autrement dit, même quand l'incendie est naturel, l'homme profite en quelque sorte de la situation. Ce que l'on sait progressivement, c'est que vers la fin du néolithique, alors, l'usage du feu dans les pratiques agro-pastorales, c'est évidemment généralisé. Mais il s'est généralisé certainement parce que la densité de population était plus forte, la pression démographique plus accentuée, n'est-ce pas ? Et qu'à ce moment-là, le feu est devenu en quelque sorte un outil de gestion de la nature et, disons, de l'environnement anthropisé.
Oui, le néolithique est sans nul doute un boom démographique. Les formes d'organisation sociale n'ont pas intéressé les archéologues français. Les avancées viennent sans nul doute plutôt de l'anthropologie sociale, notamment d'Alain Testard.
Ces débats ont redémarré il y a maintenant un certain nombre de décennies, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu les néo-évolutionnistes américains qui ont établi des catégorisations, n'est-ce pas, avec les bandes paléolithiques, les tribus néolithiques, puis les chefferies
proto-historiques.
Voilà, et puis chefferies complexes. Le mot chefferie étant un fourre-tout, d'ailleurs, qui a été beaucoup critiqué par les anthropologues eux-mêmes, bien entendu. Alors, Alain Testard a repris ce problème et il pense que ce qui compte, c'est la richesse qui donne le pouvoir en définitive. Autrement dit, il y a des sociétés sans richesse pour lui, bon, c'est grosso modo les sociétés paléolithiques, et puis des sociétés avec richesse. Et à partir de là, Testard a eu une influence réelle sur les archéologues occidentaux. Évidemment, il est très cité. Testard est un chercheur qui a disparu il y a peu de temps. Et son œuvre est en train, évidemment, actuellement, d'être décortiquée par les archéologues. Et il a joué un rôle très important parce que il a tenté, à travers les phénomènes sociaux, de concilier, en quelque sorte, l'archéologie avec l'anthropologie culturelle. Et Jean-Paul de Moule avait essayé de montrer, en observant, évidemment, des phases où on a des sépultures bien dotées, qui montrent des personnages qui sont des sortes de privilégiés, de nantis, et puis des phases au contraire où les sépultures ne révélaient pas de grosses différences, disons de statut ou d'équipement, entre les défunts. Et donc, il pensait que, par exemple, au néolithique ancien, on était dans une phase de relative égalité entre individus. Puis ensuite, on a les grands monuments type Karnak ou type Passy. Et là, alors, on a une phase de, je dirais, en mettant les guillemets, de princière, si vous permettez le mot. Bon. Ensuite, on a la période des mégalithes, des dolmens. Et là, évidemment, les dolmens sont des sépultures pour d'abord un petit nombre, puis pour un plus grand nombre. Et donc, il y a une espèce de tassement. Et puis, au début de l'âge du bronze, avec les grands tumulus, à la fois d'Armorique, du Wessex ou de Saxe, on a de nouveau un pic, en quelque sorte, avec des dominants. Puis les choses se tassent pendant les phases moyennes et terminales de l'âge du bronze. Puis on a les résidences princières au cours du Hallstatt. Alors voyez cette espèce de balancement, cette courbe sinusoïdale, en quelque sorte. Et alors, dans l'ouvrage que nous venons de publier donc avec Dominique Garcia, Jeunesse a une vision un peu différente. Pour lui, alors ça c'est parti évidemment de l'observation des sépultures du néolithique ancien, du Rubanais, n'est-ce pas ? Où Jeunesse, déjà dans un ouvrage il y a quelques années, avait fait la démonstration que dans ces sépultures, il y avait quand même des différences probablement de statut. Parce qu'il y avait des sépultures dont les sujets étaient bien dotés et d'autres non. Et donc il faisait observer en fait que dès le néolithique ancien, il y avait des dominants et des dominés, si vous me permettez l'expression bourdieusienne. Et donc, il montre dans l'article qu'il a consacré à ce sujet qu'il peut y avoir, dès le début du néolithique, une espèce d'hérédité, si vous voulez, généalogique, où le poids des ancêtres ferait qu'il y a déjà des personnes qui domineraient en quelque sorte le corps social. Et donc, si vous voulez, le pouvoir ou l'autorité ne reposerait pas tellement sur le mérite individuel, mais plutôt déjà sur une forme de hiérarchie. Et puis, il pense ensuite... Alors là-dedans, on pourrait mettre le Rubanais. Je crois qu'il met aussi le campaniforme, c'est-à-dire une étape de l'âge du cuivre. Et puis ensuite, il pense qu'au contraire, on a parfois des sociétés où l'hérédité est plus forte, n'est-ce pas ? Elle impose réellement des dominants, et là on avait même des groupes stratifiés qui dominent le corps social et qui ont une forme de pouvoir politique. Alors là-dedans, on met évidemment les princes ou les rois, vous pouvez y mettre le terme que vous voulez, du Morvian, n'est-ce pas ? Des tumuli carnassiens, ou alors même des gens qui assurent la gestion des grandes tombes mégalithiques du Midi, comme par exemple la grotte des Fées, le très grand hypogée d'Arles, qui est un monument d'exception. Donc, voyez, dans la vision de Jeunesse, il y a d'emblée, que ce soit une échelle réduite ou une échelle supérieure, il y aurait déjà des dominants.
Jean Guilaine, saluons aussi l'œuvre de Pierre Pétrequin, notamment au travers d'un exceptionnel travail sur les roches taillées et notamment les jades.
Oui, oui. Pétrequin et son équipe ont fait un travail à l'échelle européenne, assez extraordinaire d'ailleurs, et montré qu'au fond, ces dominants dont on parlait il y a un instant, ont été peut-être les commanditaires, n'est-ce pas, de transferts à la fois de matériaux et de techniques, notamment ces grandes haches de jade qui viennent d'Égypte alpin, qui sont travaillées, qui sont apportées jusqu'en Bretagne, où ces jades transformées en haches polies, qui sont des haches de prestige, d'apparat, peuvent être également repolies une seconde fois, voyez, et qui vont finir dans les sépultures des nantis de l'époque. Et à la même époque, d'ailleurs, dans ces mêmes tombes du Morbihan, on peut retrouver des colliers de varicite, qui est un minéral, n'est-ce pas, un minéral vert, dont il a été démontré que ces colliers venaient du sud de la péninsule ibérique. Donc, voyez, en même temps, le poids social qu'avaient ces personnages, qui pouvaient faire venir de plusieurs centaines de kilomètres des objets qui venaient, en quelque sorte, fortifier, être les marqueurs, connoter leur pouvoir social.
Jean-Guilaine, nous parlions de tombes à l'instant. Dans les années 80, Fombrégois a été un véritable choc dans le public. Une très belle découverte due à Jean Courtin.
Oui, alors...
Une sorte de rupture.
Oui, Jean Courtin, dans sa fouille de Fombrégois, a découvert des sujets qui avaient probablement été consommés, cannibalisés, puisque ces sujets se retrouvaient dans des fosses avec de la faune, n'est-ce pas, de la faune consommée, bien entendu, et les traces de découpe sur les ossements d'animaux et sur les ossements humains étaient absolument identiques. D'où l'idée du cannibalisme, une idée d'ailleurs qui n'était pas nouvelle à ce moment-là, et qui a toujours eu beaucoup de mal à passer dans la communauté des archéologues, parce qu'on a toujours imaginé que l'homme était un peu une créature parfaite, divine, et puis ça a choqué évidemment de voir qu'il pouvait y avoir du cannibalisme. Mais du cannibalisme, il y en a plus précocement. Il y avait déjà l'exemple moustérien de Crapina. On a peut-être aussi l'exemple qui est discuté de ce site de la région de Atapuerca également, qui est beaucoup plus ancien, et où il y aurait également des sujets qui auraient pu être consommés. Mais cela nous introduit à un autre phénomène, qui est celui de la violence. En
fait. La violence que vous avez introduite.
Mais oui. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la violence, c'était un peu comme le cannibalisme. Le cannibalisme étant considéré comme une sorte de violence. La violence, elle a longtemps été niée des archéologues. Et puis, on s'est rendu compte, petit à petit, qu'évidemment, la violence existait. Pendant longtemps, on a pensé que la violence, d'ailleurs, était le fait simplement des agriculteurs, c'est-à-dire des néolithiques et de leurs successeurs. N'est-ce pas ? En pensant qu'à partir du moment où les néolithiques créaient des richesses, créaient des surplus, automatiquement, les surplus entraînaient l'envie, la jalousie, et que donc on s'était battu pour s'approprier le bien d'autrui. Mais on pensait que les prédécesseurs, les chasseurs-cueilleurs, qui eux ne créaient pas de surplus, n'est-ce pas ? Ou probablement très peu, n'étaient pas violents. Or, on a trouvé des traces de violence déjà chez les chasseurs-cueilleurs. Il y a cet exemple du Soudan qui est bien connu, du Jebel Saaba. Plus récemment, on a signalé en Afrique de l'Est également des traces de massacres, en quelque sorte, entre populations de chasseurs-cueilleurs aux environs de 10 000 ou 9 000 avant notre ère. Donc, hélas, la violence a débuté avant le néolithique, mais je dirais que le néolithique n'a pas arrangé les choses et qu'effectivement, la création de biens, de richesses, de possessions a accentué le processus.
Et puis n'oublions pas la découverte d'Arenheim, extraordinaire, donc cas de violence en Alsace. Jean-Guilaine, la proto-histoire française est-elle encore cette belle endormie des années 1960-70 ?
Non, la proto-histoire française est actuellement en plein essor, grâce d'ailleurs à toutes les institutions, qu'il s'agisse de l'université, du CNRS, de l'INRAP, du ministère de la Culture, bien entendu, des collectivités territoriales. Cette science est en plein essor. Et maintenant, il faut trouver les moyens, en quelque sorte, qu'elle arrive jusqu'au terme, n'est-ce pas, de ses missions, c'est-à-dire les publications qui sont, au fond, la légitime terminus de toutes ces opérations qui ont lieu sur le sol de notre pays.
Jean-Guilaine, merci beaucoup. Et puisque vous parlez de publication, je rappelle donc le titre de ce volume paru à l'occasion de l'USPP, La proto-histoire de la France, sous la direction de Jean-Guilaine et de Dominique Garcia, publié aux éditions Hermann. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Guillaume Ledu. Merci à Philippe Jurado de France Bleu Toulouse et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. Et cela tout l'été. Ainsi, Carbon 14 vous donne rendez-vous dès la fin du mois d'août pour redécouvrir l'archéologie en train de se faire.